L'île du crâne d'Anthony Horowitz, chapitre 4, l'île du crâne, page 41. En réalité, le prêtre avait été victime d'une sévère crise cardiaque, mais il n'était pas mort. Le contrôleur téléphona pour appeler des secours, et à la gare de King's Lynn, une ambulance l'attendait sur le quai. David, Jill et Jeffrey étaient aussi attendus. Lorsqu'ils aperçurent l'individu qui les cherchait du regard, ils regrettèrent de n'avoir pas pris l'ambulance. L'homme était atrocement déformé. Un terrible accident de voiture, suivi d'une chute dans une essoreuse industrielle, n'aurait pu qu'améliorer son état. Il était haut, ou plutôt court, d'environ 1,50 m, car sa tête se trouvait plus près du sol que ses épaules. Cette anomalie était autant due à son cou, qui semblait avoir été brisé, qu'à son dos bossu. Il avait un seul œil, quelques centimètres plus bas qu'il aurait fallu, une joue enflée, l'autre creuse et le cheveu rare. Il portait une ample veste en cuir et un pantalon très large. Les gens qui le croisaient dans la gare faisaient un tel effort pour ne pas le regarder qu'une malheureuse femme tomba du quai. En vérité, il était extrêmement difficile de remarquer autre chose. Et il brandissait une pancarte où l'on pouvait lire « Groucham Grange ». Le cœur chaviré, David s'approcha, suivi de Jill et Jeffrey. « Je m'appelle Grégor, » dit l'homme d'une voix gutturale qui ressemblait à un gargouillis. « Avez-vous fait bon voyage ?» David dut lui faire répéter sa phrase qui sonnait plutôt comme « Avez-vous fait un bon voyage ?» Quand il eut compris, il répondit d'un simple hochement de tête. Les mots lui manquaient. « Apportez vos bagages, jeune maître, » gargouilla Grégor. « La voiture est dehors. » C'était un corbillard. On l'avait repeint, et l'on avait inscrit le nom de l'école sur le côté. Mais il était impossible de masquer sa forme, le coffre arrière long et plat destiné à recevoir de sinistres chargements. Les passants non plus n'étaient pas dupes. En apercevant les trois enfants roulant en direction de leur nouveau collège, ils s'arrêtaient dans un silence respectueux, en ôtant leur chapeau. David se demanda s'il n'était pas victime d'un horrible cauchemar et s'il n'allait pas se réveiller d'une minute à l'autre dans son lit de la Villa Virnota. Il se pinça discrètement. En vain. Le bossu jura et klaxonna derrière une camionnette, puis brûla un feu rouge. Grégor était un conducteur très particulier. Sa taille et la forme de son corps l'empêchaient pratiquement de voir par-dessus le volant. Les piétons dans la rue devaient croire que le corbillard roulait tout seul. Ce fut un miracle s'ils ne renversèrent personne. David, assis à l'avant, se surprit à observer Grégor. Il rougit lorsque celui-ci tourna la tête en souriant. « Vous vous demandez comment j'en suis venu à ressembler à ça, jeune maître, » remarqua l'homme. « Eh bien, je suis né ainsi, répugnant de naissance. Ma mère en a eu une crise de nerfs. Pauvre maman, pauvre Grégor. » Il donna un brusque coup de volant et ils bifurquèrent pour éviter un embouteillage. « Quand j'ai eu votre âge, » poursuivit Grégor, « j'ai essayé de me faire engager dans un cirque. Mais ils ont trouvé que j'étais surqualifié. Alors je suis devenu coursier à Groucham Grange. J'adore Groucham Grange. » Vous aussi vous aimerez Groucham Grange, jeune maître. Tous les jeunes maîtres aiment Groucham Grange. Ils avaient quitté la ville et suivaient maintenant la côte en direction du nord. Ensuite, David dut somnoler, car il remarqua tout à coup que le ciel s'était assombri. Il crut qu'il roulait en pleine mer. La voiture fendait des flots vert sombre. Il se frotta les yeux et regarda par la vitre. Ce n'était pas la mer, mais d'immenses champs plats, déserts. Au loin se dressait un grand moulin à vent, dont les façades de bois blanc reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. David frissonna. Grégor avait allumé le chauffage, mais la désolation du paysage semblait glacer l'air chaud. Puis il vit la mer. La route, en réalité une piste tout juste carrossable, menait à une jetée en bois gondolée. Un bateau les attendait, à demi caché par les hautes herbes. Un tas de casiers s'empilait sur le pont, recouvert d'un filet crasseux. Une mouette tournait dans le ciel en poussant des cris déchirants. David se sentait lui-même assez broyé. Grégor arrêta la voiture. « Nous y sommes, jeune maître, » annonça-t-il. Ils prirent leurs valises et descendirent. Le vent froid les fit frissonner. David se retourna pour observer le chemin qu'il venait d'emprunter, mais après quelques virages, la route disparaissait totalement et il était impossible de se repérer. Il s'est trouvé quelque part dans le Norfolk, face à la mer du Nord. Sans le moulin à vent, ils auraient pu tout aussi bien être en Chine. Quelle différence cela aurait-il fait ? Accueillant, n'est-ce pas ? Ironisa Gilles. Où sommes-nous ? Dieu seul le sait. Le dernier village que j'ai vu s'appelait Unstanton. Mais c'était il y a une demi-heure, répondit Jill, en resserrant son cardigan autour de ses épaules. J'espère seulement que nous allons arriver très vite. Pourquoi ? Parce que plus tôt nous arriverons, plus vite je repartirai. Un homme, qui venait d'apparaître sur le pont du bateau, sauta sur la jetée. Il portait des bottes montantes et une vareuse de pêcheur. Une barbe noire lui mangeait presque complètement le visage, aussi noir que ses yeux luisants qui les fixaient, sous une masse de cheveux emmêlés. Il avait une boucle en or à l'oreille gauche. Avec un sabre et un bandeau sur l'œil, on l'aurait cru tout droit sorti de l'île au trésor. « Tu es en retard, Grégor, constata-t-il. La circulation était mauvaise, capitaine, bain de sang. La mer est pire, les courants sont traîtres, Grégor, des courants traîtres et des vents traîtres. Et j'ai une femme traîtresse qui m'attend à la maison. Alors filons. » Il dénoua un cordage attaché au bout de la jetée. « Tout le monde à bord, rugit-il. Hé, toi le garçon, hisse l'ancre. » David fit ce qu'on lui demandait, bien que l'ancre fût si lourde qu'il crut ne jamais pouvoir la remonter. Un instant plus tard, il prenait le large. Le moteur toussait, crachotait, tout comme le capitaine bain de sang. Les trois jeunes gens se tassèrent l'un contre l'autre à l'arrière du bateau. Jeffrey avait pris un vilain teint verdâtre. « Je n'ai pas le pied marin, souffla-t-il. « Ne t'inquiète pas, gloussa le capitaine qui l'avait entendu. Le bateau non plus. » Un brouillard épais était tombé sur la mer. Ses tentacules d'ouate blanche se tendaient vers le bateau pour l'absorber. En un instant, le ciel disparut et tous les sons, les cris de la mouette, le moteur, le clapotis des vagues, devinrent étouffés, lointains. Puis tout aussi soudainement qu'elle les avait engloutis, la brume se dissipa et l'île du crâne apparut devant eux. Cette île mesurait environ 3 kilomètres de long et 1,5 kilomètre de large. Une forêt touffue occupait la partie est. Au sud, une falaise se dressait à pic au-dessus de la mer écumeuse, couleur de craie au sommet, mais d'un ocre boueux à la base. Un cordon de terre s'avançait et s'incurvait dans la falaise, et c'est sur ce point que le capitaine bain de sang mit le cap. Une jetée y avait été construite. Une jeep, découverte, attendait à proximité, mais il n'y avait pas de comité d'accueil, ni aucun signe de l'école. « Prêt à jeter l'ancre ?» cria le capitaine. Supposant qu'il ne plaisantait pas, David s'en saisit. Bain de sang tourna le gouvernail, mit le moteur en marche arrière et poussa un rugissement. David laissa glisser l'ancre. Jeffrey vomit par-dessus le bastingage. Ils étaient arrivés. « Par ici, jeune maître, » dit Grégor. « Ce n'est pas loin. Un tout petit trajet en voiture. » Grégor sauta le premier à terre et ouvrit la marche. Jeffrey lui emboîta le pas, entraînant péniblement sa valise. David s'arrêta pour attendre Jill. Elle observait le capitaine bain de sang qui avait déjà remonté l'ancre et quitté la jetée. « Qu'est-ce que tu attends ? » questionna David. « Nous pourrions avoir besoin de ce bateau un jour, » murmura-t-elle. « Je me demande s'il descend parfois à terre. »« Capitaine bain de sang ? » dit David en frissonnant. « Drôle de nom. »« Très drôle en effet. Mais pourquoi ça ne me fait pas rire ? Je me le demande. » Jill tourna les talons et rejoignit la jeep d'un pas hésitant. Il leur fallut 10 minutes pour atteindre l'école. Le chemin grappé en serpentant au flanc de la falaise, puis en haut, suivait la lisière de la forêt. Jeffrey s'était hissé sur le siège avant, à côté de Grégor. David et Jill étaient assis à l'arrière et se cramponnaient tant qu'ils pouvaient. Chaque fois que la jeep roulait sur une pierre ou dans une ornière, ce qui arrivait fréquemment, ils sautaient en l'air et retombaient lourdement. À l'arrivée, David savait ce que pouvait ressentir une salade. Cependant, il oublia très vite son inconfort en découvrant Groucham Grange. C'était un immense et lourd bâtiment, plus haut que large, un mélange ahurissant de remparts, de fenêtres à barreaux, de tours pointues, de toits pentus en ardoise grise, de gargouilles grimaçantes et de cheminées hideuses en briques. On aurait dit que les architectes de Westminster Abbey, de la gare Victoria et de l'usine à gaz de Brixton avaient accidentellement mêlé leurs plans pour arriver à ce résultat. Quand la jeep stoppa devant la porte principale, un panneau en bois massif de 30 cm d'épaisseur garni de clous, le tonnerre gronda et un éclair zébra le ciel. Au loin, un loup hurla. Puis, la porte s'ouvrit lentement, en grinçant.